Youtubercule, vous n'y échapperez pas.
Thierry, tu me confirmes, on a Bucarest en ligne, c'est bon? Bucarest, c'est bon. On me dit que Kiev, ça grésille. Non. On est prêt, Paladin, non?
Ouais.
Bienvenue sur le stand Picardie debout Fakir, ou Fakir Picardie debout. On a 7 minutes de retard alors qu'on est le matos il y a un quart d'heure. Bravo à Thierry, bravo à Jean pour l'installation rapide et tous ceux qui ont filé un coup de main pour que ce soit possible. Allez, jingle!
Les éditions Fakir
et Picardie debout
et Youtubercule présentent
en collaboration avec Karl Kraus
les derniers jours de l'humanité.
En direct de la fête de l'Huma, le satellite est aligné, donc on a tout. On a tout ce qu'il vous faut, une petite présentation, on va parler ruralité. Parce que si certains d'entre vous habitent à la ville, d'autres c'est pas le cas. On va en parler avec Philippe Brun qui est député PS de la 4e circonscription de l'Eure. Et on a marqué par ailleurs juge administratif. Avec Julien Mignacca qui est porte-parole EELV à Montpellier et ancienne candidate sur les législatives, malheureusement dans un département qui n'est pas facile. On a Chantal Benoît qui nous a rejoint, vous l'avez peut-être vu récemment dans C'est dans l'air. Depuis 40 ans dans sa commune, elle lutte contre le Front National, elle nous en parlera. On a Guillaume Ancelet, professeur de PS, président de Picardie debout. Et un invité de dernière minute, notre pote, ancien meilleur vendeur de chez Fakir, qui maintenant est député, comme quoi, hein. Vendez du Fakir, ça amène loin. Il est là, il est avec nous, il est maintenant député de Haute-Garonne, Christophe Bex. J'ai ma conduite, c'est super. Un petit peu de musique, on revoit le lancement, la ruralité. On a souvent l'impression que la ruralité, pour certains, c'est un problème. Est-ce que ça ne serait pas la solution? Alors je vais vous laisser chacun dire votre petit mot, discuter, et puis on mettra le public à contribution, mais ça sera dans une deuxième partie. On va laisser Chantal, qui a une belle expérience, nous en parler en premier. Chantal, c'est à toi.
Alors je suis maire d'un petit village de 500 habitants. Donc nous on fait de la résistance en permanence, on est rebelles parce qu'on ne veut pas que l'État nous supprime. Parce qu'il faut savoir qu'un habitant rural vaut la moitié d'un habitant citadin. Ça veut dire qu'on touche la moitié des subventions. Donc on retrousse nos manches, on met les mains dans le cambouis. Donc on vient d'ouvrir une maison multiservice. On a 500 habitants, mais on a une épicerie, un bar, un coiffeur, une esthéticienne, une pédicure et on a une gynéco qui commence dans 2 mois. Donc voilà, c'est pour prouver à l'État qu'on n'en a rien à faire de leur argent, qu'on ne mettra pas, on ne fera pas des choses pour la finance. On gère notre eau en régie locale.
Ah, c'est bien ça.
Et alors, je suis sur 30 communes et on fait tout nous-mêmes. Le but, c'est de faire tout nous-mêmes puisque en fait, on ne peut rien faire autrement.
Bravo.
On va faire jouer l'alternance, bien qu'on n'ait pas une véritable parité sur la table. On va demander à Guillaume de nous parler un petit peu de la ruralité vue de Picardie.
Alors moi, je suis sur l'autre côté de la Somme par rapport à François. François est sur la première circonscription. Moi, j'étais candidat sur la 5e circonscription. 242 communes pour faire campagne où la plus grande faisait 10 000 habitants. Donc la ruralité, on connaît bien. On fait des kilomètres au quotidien. Et pour nous, c'est les services publics qui s'éloignent au fur et à mesure avec la fermeture des PMI, des gares, des bureaux de poste. Et c'est pas une fatalité. Et je suis content de voir qu'autour de moi, il y a des maires qui ont conscience qu'au cœur des villes et des villages ruraux, on est en capacité de faire revenir les gens et de les maintenir dans les habitats qui ne sont pas que simplement des dortoirs de métropole, mais pour lesquels il y a une vie et où les jeunes peuvent s'épanouir dans les associations sportives, les associations culturelles et d'éducation populaire au travers des centres de loisirs, etc. Et dans l'est de la Somme, aujourd'hui, on a un peu perdu ce fil. Et on aimerait que les maires, les présidents de com reprennent la main là-dessus. Malheureusement, ça vote beaucoup à droite et à l'extrême droite dans nos patelins. Et c'est pas forcément leur objectif prioritaire. C'est vraiment maintenir le niveau d'imposition qui ne bouge pas depuis 2010. Et je peux vous dire que lorsque un tout petit investissement est fait, par exemple, en, en changeant les ampoules à LED ou en éteignant la nuit, eh ben c'est fait pour ne pas augmenter les impôts. Jamais pour réinvestir pour les jeunes, jamais pour réinvestir pour la santé, jamais pour réinvestir pour l'éducation. Et ça, ça manque cruellement. Et j'ai envie vraiment que nos élus de gauche s'emparent de municipalités rurales pour redonner du peps et de l'espoir pour que tout ne se passe pas dans les grandes villes.
On va demander à Julia de continuer alors.
Moi j'étais candidate sur une circonscription qui est vraiment à l'échelle de la France, avec une partie très rurale, assez loin de la métropole, voire en dehors de la métropole, mais dans l'influence de la ville de Montpellier, et une partie très urbaine, du coup avec beaucoup d'antagonisme et un clivage très fort en fait entre les deux. Parce que si on regarde simplement le résultat qu'on a pu faire aux élections, donc on fait 47% au second tour, avec des bureaux de vote où on est à plus de 70% en ville à Montpellier, et des bureaux de vote les plus éloignés, on va être à un peu moins de 40%. Et donc la question qui se pose derrière, c'est d'où vient cet antagonisme et comment on n'arrive pas en fait à parler à des populations qui vont être très différentes, dans des logiques très différentes. Et justement, tu le disais, est-ce que la ruralité c'est la solution? Alors, la ruralité c'est indispensable surtout, c'est l'endroit où on va se nourrir, c'est l'endroit où on peut vivre, où on peut inventer, où on va y avoir de la biodiversité, où il se passe beaucoup beaucoup de choses, et il n'y a pas d'antagonisme entre ruralité et ville, si ce n'est aujourd'hui un délaissement de ces territoires ruraux, parce qu'on va mettre tous les services en ville avec un phénomène de métropolisation et créer des inégalités qui sont très fortes. Aujourd'hui, ces inégalités, finalement, elles sont créées par Macron, elles sont créées par les gouvernements précédents, et elles nous pénalisent parce que nous, on a beaucoup de solutions à offrir aux ruralités. Et quand on voit que le RN essaye de nous enfermer dans un clivage urbain-rural en faisant beaucoup d'écolo-bashing, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais tout le mois d'août, là, à la rentrée, si on les écoute, seul le RN pourrait défendre les territoires ruraux, et il y aurait un match simplement entre Macron et le RN, et où finalement, bah, nous, on n'aurait pas notre mot à dire. C'est pas du tout ça. Il existe une écologie rurale, il existe une gauche rurale, et on est là pour la défendre.
Philippe, c'est à toi.
Merci les camarades pour votre invitation. Grand plaisir d'être avec vous sur ce stand. Alors moi, je me présente, je suis élu d'une circonscription qui est dans le département de l'Eure. Alors l'Eure, les gens ne savent jamais où c'est. L'Eure, c'est en Normandie. Voilà. L'Eure-et-Loire, c'est en région centre. L'Eure, c'est en Normandie. Et dans mon département, on a 5 circonscriptions. Il y en a 4 qui sont passées RN. Et moi, je suis le seul à avoir réussi à gagner. Marine Le Pen avait fait 53% dans la circonscription. Et nous, on a réussi à gagner à 300 voix. Pour vous raconter un peu ce qui se passe dans l'Eure, bah, dans ma circonscription, on a fermé 7 centres des finances publiques en 5 ans. 12 classes d'école, 8 bureaux de poste, un collège et un grand nombre d'autres services publics. On est dans le premier désert médical de France métropolitaine, avec moins de 60 médecins pour 100 000 habitants. Et après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que sur les terrains qu'on laisse en jachère, ce soit la mauvaise herbe du Rassemblement national qui pousse. Et pourtant, c'est les moins bien placés normalement pour porter le discours qu'on doit porter, qui est celui des services publics, qui est celui de la hausse de la feuille de paie, qui est celui aussi de la lutte contre la désertification médicale. Et je veux que ici vous soyez tous conscients que le parti qui a mis en échec à l'Assemblée nationale notre loi pour réguler l'installation de médecins sur le territoire, c'est le Rassemblement national. À l'unanimité de leurs députés, ils se sont tous opposés à cette proposition de loi de notre collègue Guillaume Garot, qui était portée par toute la NUPES. S'ils s'étaient abstenus, elle serait passée. Et pourquoi le Rassemblement national a voté contre? Eh bien, cela est simple. Si le problème de la désertification médicale disparaît, je crois qu'une partie aussi du Rassemblement national disparaît. Et donc, nous sommes ici dans un combat. Et j'ai la conviction que si on veut regagner cette ruralité perdue, cette ruralité qui aujourd'hui ne fait plus suffisamment confiance à la gauche, c'est en reprenant le combat du service public, le combat évidemment social, le combat des mobilités avec la réouverture des petites lignes de train, et de montrer un autre visage de la gauche.
C'est à toi, Christophe, t'as le micro devant.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais remercier déjà Picardie Debout et Fakir d'organiser ce débat sur les ruralités, car il y a plusieurs ruralités. Moi-même, je suis originaire je me définis comme un enfant de la ruralité. Je viens des départements méconnus de l'Est de la France qui s'appelle la Meuse. J'ai vécu dans un petit village de 400 habitants et j'ai fui cette ruralité. Et on pourrait faire référence au bouquin de Coquart, Benoît Coquart, qui dit « Ceux qui restent ». J'aurais pu être un de ces jeunes qui restent dans la ruralité, travailler à l'usine du coin, ou chez le maçon ou le menuisier du coin et continuer à faire mon activité et peut-être picoler avec les copains et connaître cette vie-là. Alors j'ai décidé, j'ai fui, je reconnais que j'ai fui et je suis rentré dans l'administration qu'on ne connaît plus, ça s'appelle les PTT, Service Public ô combien exemplaire, et j'ai quitté et je suis parti à Paris. Entre-temps, bon, j'ai vécu et je me retrouve aujourd'hui député de la 7e circonscription de Haute-Garonne, au sud de Toulouse, pour la France Insoumise. Et je voudrais dire, au sud de Toulouse, à 20-25 km de Toulouse, que tout le monde considère comme la ville rose, une ville de gauche, des républicains espagnols, la ville où ça bouge, eh bien, à quelques kilomètres au sud de Toulouse, sur 60 communes de ma circo, 34 communes ont mis en tête, au deuxième tour de la présidentielle, au deuxième tour, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui fait des scores déjà en 2017, mais déjà en 2014. Alors qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? C'est pour ça que je dis les ruralités. J'ai quitté une ruralité qui est la Meuse, qui est une ruralité différente de celle que je connais au Haute-Garonne. Et c'est pour ça que je pense que les ruralités sont l'avenir, c'est tous les possibles. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font dans les ruralités. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'implanter économiquement, parce que c'est impossible de vivre maintenant dans la métropole au prix du loyer. Mais ils viennent ouvrir des tiers-lieux, ils viennent faire du maraîchage, ils viennent pour faire de l'artisanat, ils viennent pour tout ce qui est possible de faire dans ces terrains qui sont justement à défricher. On n'est pas loin de l'Ariège, donc ça fait déjà un mouvement qu'on connaît depuis les années 70. On parle des services publics. Il n'y a pas un sentiment d'abandon, il y a un véritable abandon des services publics, mais même des services marchands. 70% des communes rurales en France n'ont plus aucun commerce de proximité de leur commune. Donc les gens sont obligés de prendre leur voiture, non seulement pour aller travailler, mais pour aller acheter leur baguette de pain, pour emmener la voiture au garage. Donc c'est de tout ça que nous sommes alertés. Et il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire la NUPES au complet, mais même au-delà, pour vraiment avoir un programme. Au sein de la France Insoumise, on est une vingtaine de députés qui sont concernés par ces problématiques-là, sans négliger, bien entendu, les quartiers. On n'est pas là pour faire l'opposition entre quartier et ruralité, c'est tous ensemble. Donc on va tous s'y atteler, tous ensemble, pour présenter une alternative crédible et répondre au Rassemblement National qui trompe les gens, justement, sur l'avenir des ruralités.
Parce que, en fin de compte, dans ces différentes formes de ruralité que vous représentez, dans lesquelles vous êtes engagé, le Front National, il avance, en fin de compte, sans rien faire. De façon un peu insidieuse, il profite d'une espèce de brouillard là, pour avancer au milieu. Comment vous, dans vos différentes formations, et puis dans les différents niveaux où vous êtes impliqués, comment vous mettez en place cette lutte contre le RN?
La proximité, je pense que c'est la seule façon de lutter. Ça veut dire qu'en fait, on est proche des gens, on établit du lien, on remplace tous les services publics qui sont supprimés à la mairie, donc on leur fait leurs impôts, la CAF, etc.
Ouais, alors moi, nous, c'est comme Chantal. Alors d'abord, première chose, effectivement, quand il n'y a plus de service public, nous, on remplace les services publics. Ma permanence, c'est une maison de service public. 80% de mon enveloppe de crédit collaborateur, elle part dans ma circonscription. Donc mes collaborateurs, c'est des travailleurs sociaux, en fait. Et on a aidé, en un an, depuis que j'ai été élu, on a aidé 1800 personnes dans leurs difficultés, qu'elles soient de RSA, de retraite, des questions de permis de construire, enfin... Évidemment, aujourd'hui, on demande aux gens d'aller dans les maisons France Service. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison France Service. Moi, il y en a une dans ma circonscription, dans une commune qui s'appelle Enfreville-la-Campagne, où ça a voté RN à peu près 70%. La maison France Service, c'est une pièce sans fenêtre. Au milieu, vous avez un ordinateur en Windows 95. Et devant, vous avez un jeune en service civique qui est payé 500 € et à qui on demande d'être aussi compétent qu'un conseiller Pôle emploi, qu'un inspecteur du travail, qu'un inspecteur des finances publiques, qu'un agent de la CARSAT, qu'un travailleur social de la CAF. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Deuxième chose qu'on fait, évidemment, pour avoir de la proximité, il faut qu'on sache s'adresser aux gens qui, aujourd'hui, ne veulent plus entendre parler de politique et ne veulent plus voir d'élus devant eux. Comment on fait? On fait comme vous faites en Picardie, les camarades. Nous, on fait des fêtes. J'ai organisé, c'était le week-end dernier, la fête populaire. C'est un grand rassemblement qu'on a fait chez moi. C'est une foire à tout. Les foires à tout en Normandie, Chantal connaît, c'est les brocantes en fait. Hein. Mais en Normandie, on appelle ça les foires à tout. une fête foraine, des manèges, des frites, des saucisses. Les gens viennent en vérité pour la fête. Et au milieu, vous avez un atelier sur le féminisme, un atelier sur la sécurité, un atelier sur l'écologie populaire. Et les gens s'assoient, ils prennent une petite crêpe, ils prennent un petit café, ils prennent une petite bière et ils commencent à s'intéresser. On a eu plus de 750 personnes qui sont venues dans le département de l'Eure à ce rassemblement politique. C'est plus que la dernière fête de la rose d'Arnaud Montebourg à Frangy-en-Bresse. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à faire venir des gens...
Ouais, c'est pas un exploit non plus.
Par rapport à ce qu'on est capable de faire, je veux dire, c'est pas un événement qui était militant, c'était un événement populaire. Et pour nous, c'était un succès dans un département qui, encore une fois, à ma circonscription, on l'a voté que 16% Jean-Luc Mélenchon.
Alors, la proximité, évidemment, c'est indispensable, comme l'ont dit mes camarades. Après, il y a clairement, pour moi, ce que je disais en introduction, c'est-à-dire comment on sort de ce clivage qui nous est mortifère, qui oppose urbain et rural, et dans lequel, en fait, le RN et Macron veulent nous enfermer, parce que, du coup, on perd, en fait, la main, sachant qu'on a remporté beaucoup de villes aux dernières élections, qu'on a beaucoup de choses à dire sur les enjeux urbains, et on entend beaucoup aussi nos représentants en ville, et finalement beaucoup moins à la campagne. Et ça passe aussi par ça, c'est-à-dire aujourd'hui faire de la place, faire de l'espace aux enjeux de la ruralité et aux personnes qui les portent, au moins autant qu'à ceux qui les portent en ville. Et il faut changer notre vision de voir un territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir, si je prends l'exemple de chez moi, donc l'aire Montpellier-Rennes, le bassin économique montpelliérain, ça représente 116 communes et plus de 600 000 habitants. C'est-à-dire une ville comme Montpellier, en fait, ça rayonne dans toute une partie de l'Hérault, même au-delà, une partie du Gard. Et le fonctionnement de cette ville va avoir un impact très concret sur les populations qui n'y habitent pas, mais qui viennent y travailler, qui viennent avoir les services de soins, parce que justement, tu le disais, avec la désertification médicale, qui viennent à l'université, etc. Et aujourd'hui, on voit justement ce phénomène où on a opposé pendant des années les métropoles entre elles, en disant que c'était la compétition, donc il fallait des métropoles toujours plus grosses. Nous, on serait en compétition avec Toulouse, avec Barcelone, et donc on a vidé les campagnes d'activités économiques, des services. Chez nous, dans l'Hérault, il n'y a pas de moyens de transport, hein, très peu. Il y a une ligne ferroviaire littorale, et pour aller dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, rien que le nom, en fait, il n'y a pas de transport en commun. Donc on a une file ininterrompue de voitures. Et aujourd'hui, on a concrètement une politique métropolitaine montpelliéraine qui ne prend pas du tout en compte, finalement, les enjeux du bassin économique dans son ensemble. Et ça, ben ça, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié au fait que, finalement, le maire de Montpellier, le président de la métropole, ben, il est élu par les Montpelliérains et non pas par déjà l'ensemble de la métropole, qui ne représente pas les 600 000 habitants, mais déjà 450 et 31 communes, et qui, du coup, va faire une politique qui va être dédiée à sa ville, à sa métropole, et pas au bassin. Je vous donne un exemple concret, un exemple chez nous qui fait un peu polémique, la gratuité des transports. À première vue, on peut se dire que c'est une super idée, la gratuité des transports. C'est super notamment pour les gens qui habitent en ville et qui n'auront plus à payer le tramway. Le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que du coup on va baisser la qualité du service des transports en commun. On va augmenter le prix du ticket pour tous les non-résidents, c'est-à-dire qui ? Ben, les gens qui habitent en ruralité, qui viennent travailler à Montpellier et qui pourraient laisser leur voiture aux abords, ils doivent prendre la voiture, mais aux abords et prendre un train, mais pour eux ce sera payant et on va augmenter le tarif. On développera moins de services qui iront loin dans la métropole pour accueillir finalement ces populations-là. Et donc on va avoir toujours cette dichotomie de politique entre des urbains qui vont être favorisés, qui vont avoir la gratuité des transports, qui n'auront pas besoin de voiture, donc pour qui la ZFE ne posera pas problème, et des gens en territoire rural qui ne peuvent pas se permettre d'habiter en ville ou qui ne le souhaitent pas, qui vont devoir utiliser la voiture, qui ne pourront plus utiliser leur voiture avec la ZFE et qui vivent finalement la mise en place de ces mesures comme une réelle injustice sociale. Et la problématique qu'on a aussi là-dessus, c'est que finalement cette écologie, si on prend juste la ZFE, cette écologie très libérale, si on peut parler d'écologie, parce que ça reste encore à prouver, clairement c'est pas la nôtre, parce qu'elle exclut en fait toute une partie de la population, et les gens vont retenir ça, et vont retenir cette opposition dans laquelle on veut nous enfermer, alors que non, il faut penser des politiques qui incluent en fait l'ensemble des gens et qui nous sortent de ces clivages.
Je voudrais revenir, Eric, tu disais en introduction, le RN prospère chez nous sans rien faire. Mais non, c'est pas sans rien faire en fait, parce que depuis 20 ans, ils ont su parler aux ouvriers,
Là où chez nous, on avait des usines qui ont été victimes de la mondialisation et d'un marché ouvert, les ouvriers ont vu partir leurs usines, leurs outils de production à l'autre bout du monde. Et le Rassemblement National était là pour porter un discours anti-mondialisation qui leur a causé. Là où nous, on était défaillants. Le deuxième point, c'est que en termes de fidélité, c'est incroyable. Aujourd'hui, dans ma circonscription, les gens sont fiers de voter Marine parce qu'ils ne votent plus Le Pen, ils votent Marine. C'est-à-dire que c'est une certaine fidélité, une amie, une copine qu'on retrouve à chaque élection, aux élections départementales. Nous, dans les Hauts-de-France, on la retrouve aussi aux élections régionales, on la retrouve aux élections présidentielles, on la retrouve aux législatives, parce que, quelle que soit l'élection, sa tête est en plus gros sur l'affiche que n'importe quel des candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont en capacité de retrouver ponctuellement quelqu'un qui leur a parlé au démarrage sur la peur de l'étranger dans les années 80-90, sur la peur de l'Europe et de la mondialisation dans les années 2000, sur le volet social au début des années 2010. Et aujourd'hui, tranquillement, dans je me fais respectable et en venant accumuler des petits cubes les uns au-dessus des autres, de venir capitaliser en quelque sorte, de montrer qu'ils sont en capacité de prendre le pouvoir parce qu'ils ont la cravate, ils ont la chemise et ils ont le tailleur à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est, nous, en capacité de proposer des réponses au niveau local, mais il faut encore que le discours national nous accompagne. Parce que localement, quand on va faire du porte-à-porte et qu'on est un militant et qu'on entend nationalement nos leaders nationaux qui disent « la police tue, on chasse pas le dimanche, etc. etc. », et ben nous, les gens, les oreilles se ferment. On a beau venir avec toutes les meilleures intentions du monde, on a beau venir avec l'étiquette François Ruffin pour ma part et pour les militants de mon coin, c'est pas suffisant. Parce qu'on a des gens qui porte le message politique national qui est en inadéquation avec ce dont on a besoin localement. Alors, s'il y a des élus locaux qui reprennent la main sur le local, tant mieux. Mais il faut que ce discours local soit aussi entendu par la tête de nos partis, les gouvernants de nos partis, pour qu'on puisse, nous, ne pas militer dans le désert et qu'on ait un écho qui soit doublé par quand on va au porte-à-porte, quand on rencontre les gens sur les marchés, et on a le même discours au niveau national qui vient faire redite ou qui vient aménager et enfin, faciliter l'ouverture des oreilles des gens qui nous écoutent dans nos territoires.
Bravo, franchement, merci. Alors, pour ma part, la proximité, ça a été dit, c'est la proximité qui crée le lien. Comme dit Philippe, la permanence que j'ai à Muret de député, ça va devenir la maison du peuple. Écoutez les gens, mais il y a aussi des petites victoires à gagner au niveau local. On sait très bien qu'au niveau national, à l'Assemblée nationale, ça va être compliqué. Par contre, au niveau local, quand il va manquer un prof dans une école, eh bien là, le député peut avoir son rôle à jouer. Il suffit que les parents d'élèves se mobilisent. Il suffit que l'élu local, le maire, que la presse soit là et que le député vienne. Eh bien, je vous assure que le rectorat, il réagit dans la foulée et il y aura un instit ou un prof qui arrivera de lundi. Ça, c'est des petites victoires qui permettent justement d'agréger et d'unir les gens. Peu importe ce que pensent les gens. Il y a des électeurs du Rassemblement National qui sont parents d'élèves. Mais quand ils vont voir le député de la France Insoumise, l'islamo-gauchiste, qui dit que Jean-Luc Mélenchon, la police tue, mais qui vient sauver le poste d'instituteur, eh bien, le regard, il change. Il y a des petits combats, il y a une piscine qui va fermer. Eh bien, je dis, organisez-vous, les gens, créez un collectif. Moi, je suis prêt à venir avec vous. Je suis prêt à convoquer la presse. L'élu local, il vient. Et je te dis toujours, c'est dans l'action qu'on fait l'union. On fait partie de la NUPES. Vous savez ce qui se passe à la NUPES. Ça discute. On gagnera que si on est unis dans l'action. Je me souviens d'avoir mené un référendum contre les aéroports de Paris. On a fait ce combat-là avec des communistes, des socialistes, des écologistes, des militants de partout, du NPA. On était tous ensemble derrière la table à faire signer. On n'était pas dans des meetings, on n'était pas là à se pouiller en réunion, on fait des réunions interminables entre nous, on n'en finit plus de dire tiens c'est la couleur du crayon qui va pas, le mot là il va pas. Non, quand on est sur le terrain, on est unis. Là on va se mobiliser contre l'ouverture d'un McDonald's dans une petite ville de 4000 habitants. Est-ce qu'il y a besoin d'un McDonald's dans une petite ville de 4000 habitants? Non. Donc on va expliquer aux gens qu'on va se mobiliser, que la malbouffe c'est pas bon justement pour la jeunesse mais même pour la santé. Donc c'est par ces combats là. Et en tant que député maintenant j'ai les moyens. Avant, j'étais militant France Insoumise, parti de gauche syndicaliste. Là, je suis député, j'ai des moyens financiers, on va dire. J'ai une équipe avec moi, donc j'ai la capacité de générer des collectifs de lutte. Et après, les gens, ils gèrent. ils s'autogèrent, c'est ça l'idée. Et puis on va faire, comme Philippe a fait récemment, une fête populaire. Alors une fête populaire, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est de la musique, c'est des jeux pour enfants, c'est de la restauration, mais c'est aussi, c'est un village associatif. On va expliquer ce que c'est la CDFE, on va expliquer ce que c'est la fermeture des urgences, pourquoi on en est à fermer des urgences. La Ligue des droits de l'homme va venir aussi expliquer la lutte qu'on mène justement à Muret contre l'ouverture d'une prison. Et puis on va expliquer aussi, il va y avoir un atelier qui va expliquer ce que c'est qu'une fiche de paye. Vous savez, le discours du Rassemblement National, salaire brut égale salaire net. C'est-à-dire qu'on oublie les cotisations sociales, on oublie la solidarité, on oublie ce que c'est justement le vivre en commun. Et bien avec cet atelier de fiche de paye, tout le monde a une fiche de paye chez soi. Tout le monde a ce livre qui est une fiche de paye. Et en détaillant la fiche de paye, ça c'est Franck Lepage qui fait un super atelier là-dessus, on explique les luttes sociales de France, on explique le mouvement ouvrier. Et les gens vont prendre conscience qu'en partant d'un document qu'on a chez soi, en partant de sa situation personnelle, que c'est le global, et que c'est en étant unis que par le collectif, on peut maintenir notre sécurité sociale, mais même aller plus loin, aller vers une sécurité sociale alimentaire. On voit qu'en plein mois de septembre, les restaurants du cœur appellent, ils crient au secours. Eh bien, mettons en place la sécurité sociale alimentaire. Eh bien, lors de cette vote populaire, on va, comme disait Philippe, éveiller les consciences des gens. Et moi, je souhaite que des électeurs du Rassemblement National viennent boire un coup, viennent se distraire, et petit à petit, on infuse. Et non pas les montrer du doigt en leur disant « Vous êtes des sales fachos, avec vous, c'est pas possible. » Non, si on fait ça, on est mort. Il faut réamorcer les abstentionnistes qui revotent pour la gauche et les électeurs du Rassemblement National qui se trompent et que leur choix est mortifère pour eux, en premier lieu, pour eux.
Bon, ça valait bien une petite pub quand même. Moi, il se trouve que j'habite dans un département, le Var, donc on a 7 députés du Rassemblement National et un d'extrême droite. Et moi, j'aimerais bien, là, avant qu'on fasse la petite pause, que vous nous racontiez quelques victoires quand même. Parce que moi, j'en ai besoin de sentir des victoires. Il y en a des victoires. Il y a des victoires, personne n'en parle, c'est difficile que d'en entendre parler dans les médias. Donc j'aimerais bien que vous nous racontiez quelques victoires avant qu'on fasse une petite pause.
C'est une demi, donc je fais une transition sur ce que disait Guillaume, qui me semble être un point hyper important sur comment aussi nos partis au niveau national vont relayer ce qu'on vit sur le territoire, sur les territoires ruraux, et font attention aussi à ce qu'ils se disent. Et à l'identité en fait de chacun des territoires, parce que tu l'as dit, il y a des ruralités. Le Front National parle beaucoup d'identité qui est une identité excluante. On peut très bien revendiquer une identité incluante. Et si je prends un exemple très concret chez moi, donc moi, je suis chez moi, c'est très influencé par la culture camarguaise, où le RN est très fort. Et on a une culture traditionnelle locale qui s'appelle la bouvine. Alors la bouvine, ça ne doit parler absolument à personne ici. C'est une culture autour du taureau, qui n'est pas la corrida, puisqu'on ne va pas tuer ni blesser l'animal. Et qui est extrêmement populaire, puisque dans chaque fête de village, tous les ans, dans tous les villages, on va avoir une animation autour du taureau. C'est très ancré, tout le monde y va, les enfants, les vieux, les grands, les militants de gauche, les militants de droite, les militants d'extrême droite, et les gens qui ne sont pas politisés du tout non plus d'ailleurs, et ils sont majoritaires. Et dans ce que tu disais, pour moi, là où c'est hyper important, c'est qu'en janvier dernier, on a eu une tribune dans l'Hérault, signée par les élus métropolitains, écolo-animalistes, qui finalement pointait du doigt cette pratique-là. Et qui la mettait sur le même niveau finalement que la corrida, ce qui n'est absolument pas le cas, et qui s'est soldé par des articles de presse tous les jours dans la presse locale et une manifestation qui a réuni 10 000 personnes avec des poignées de terre disant « c'est la ruralité contre les urbains parce que vous allez arrêter de nous donner des leçons de morale ». Et si vous voulez, cette séquence, elle a été terrible, mais on s'en est bien sorti, c'est ça le côté positif. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est des gens, des élus urbains, qui vont donner des leçons de morale à des gens en ruralité et qui surtout ne seront pas allés dialoguer avec les gens en ruralité. Alors qu'en fait, nous, du coup, on y est allés, on a rattrapé le coup derrière. Et évidemment, on a rencontré la Fédération française de la course camarguaise, on a rencontré tous les acteurs autour de ce sport, parce que c'est considéré comme un sport, de cette culture, parce que c'est considéré comme une culture. Et il se trouve qu'ils étaient tout à fait d'accord avec nous pour travailler sur la condition animale. Et qu'il n'y avait aucun problème, mais que la tribune, ça leur a fait mal, parce que ça les a pointés du doigt et ça les a discrédités encore une fois. Et nous aussi, ça nous a fait mal, parce que ça nous a discrédités encore une fois, donc on est tombés dans ce piège. Et donc la bonne manière de faire, et la victoire qu'on a eue, c'est qu'on a fait un partenariat et qu'on a travaillé main dans la main, la bonne manière de faire, c'est d'aller voir en fait l'ensemble de ces acteurs, de dialoguer, sans rien lâcher de nos ambitions à nous, mais en fait, à partir du moment où on n'est plus sur des postures, mais où au contraire, on tisse du lien et on fait des choses ensemble, il se passe plein de belles choses.
Allez, encore des victoires.
En réalité, il y a des victoires locales, il y a plein de petites victoires locales qu'on peut remporter, ce que disait Christophe, des postes d'AESH qu'on a réussi à récupérer, des classes qu'on a réussi à ne pas faire fermer, des usines où ils étaient en grève pour la hausse des salaires, on a réussi à aller voir le patron, lui dire, bah voilà, on discute, bon, voilà, évidemment, il y en a plein. Mais on a eu aussi des victoires nationales. Christophe dit, c'est compliqué, mais on a eu des petites victoires nationales. Il y en a eu deux auxquelles j'ai contribué. Il y en a une qui peut paraître mineure, mais c'est la question des gens qui se chauffent au bois l'hiver. Vous avez vu l'explosion des prix du bois l'hiver dernier, et des gens notamment qui se chauffent aux chaudières appelées de bois. Moi, j'ai déposé un amendement, il a été adopté par l'Assemblée nationale, et le gouvernement n'a pas fait de 49.3, et donc ça a créé un chèque de 280 millions d'euros pour tous les gens qui se chauffent au bois. Et c'est la France dont on parle, la France rurale. Tous les gens chez nous, ils ont des cheminées, ils habitent dans des pavillons où ils ont un poêle à bois parce que c'est la chaudière la moins chère quand on ne peut plus avoir de chaudière à fioul. Et alors, deuxième victoire, qui est vraiment là une grande victoire, c'est notre loi interdisant la privatisation d'EDF et rétablissant les tarifs réglementés de l'électricité. C'est une loi que j'ai portée, mais qui était soutenue par toute la NUPES. Christophe était là, d'autres camarades, bien sûr. Et elle a été adoptée deux fois par l'Assemblée nationale, une fois par le Sénat. Et là, elle passe au Sénat en lecture définitive en octobre, après les sénatoriales. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'une loi est adoptée, serait adoptée, contre l'avis du gouvernement. Et c'est la première fois qu'une loi va aussi loin dans le processus législatif contre l'avis du gouvernement. Et là, on est en train de renverser une logique, la logique de la destruction du service public, la logique de la libéralisation à tout craint, la logique qui nous amène aujourd'hui à voir exploser les prix de l'électricité alors qu'on la produit toujours au même prix, qui est à peu près de 60 euros du mégawatt. Et ça, c'est une victoire parlementaire. Donc il ne faut pas non plus désespérer de l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a pas de majorité et on est capable aussi, de temps en temps, de remporter des victoires.
Alors la victoire de ma circonscription, c'est une circonscription qui est complètement à droite, où on a un député communiste. Mon village est complètement à droite. Moi, je suis une militante proche, complètement à gauche. Et les gens m'acceptent depuis 40 ans, donc c'est quand même pas mal. Et le député communiste a un lien extraordinaire avec tout le monde agricole. Il faut savoir que le monde agricole souffre. Il y en a un qui me disait l'autre jour, avant je pouvais acheter un litre de fioul avec un litre de lait. Maintenant il me faut 4 litres de lait pour pouvoir avoir un litre de fioul. Donc Sébastien Jumel en fait a réussi à créer une proximité extraordinaire avec tous les habitants et tout le milieu rural. Donc ça c'est une super victoire.
La victoire sur laquelle je voudrais revenir en Picardie, c'est l'existence même de Picardie Debout. En fait, on pensait la gauche morte dans nos ruralités, dans nos villages, etc. Et on a découvert des gens qui se mettaient en mouvement. Et ça, Christophe, tu disais tout à l'heure, par l'action, on se réveille, etc. Et aujourd'hui, on a autour de nous, quand on appuie sur un bouton, une centaine de militants qui sont capables de monter des collectes solidaires pour Noël, pour les produits d'hygiène et de santé pour les étudiants, pour les fournitures scolaires pour les jeunes qui sont déboutés du droit d'asile. On a également des militants qui sont capables de monter des fêtes populaires. Et il n'y a pas de désert militant. Il n'y a que des endroits sur lesquels on n'a peut-être pas suffisamment milité et qu'on a laissé dépérir tout doucement. Et qu'en reprenant le terrain pied à pied, alors certes c'est long, certes ça demande de l'énergie, mais l'énergie appelle l'énergie, on a plaisir aujourd'hui à se retrouver. Et on crée un réseau associatif de gens qui sont d'horizons tout à fait divers, qui ne savaient pas que de l'autre côté de leur village, il y avait quelqu'un qui pensait comme eux, et que ça leur faisait du bien de se retrouver à un moment sur une action, que ça soit dans une association de parents d'élèves, ou une association d'aide humanitaire, ou une association sportive. Mais en tout cas, sachez que se mettre en mouvement, à chaque fois qu'on soit 2, 3, 5, 10, c'est la base de monter un grand mouvement populaire. Et aujourd'hui, la réussite qu'on a envie de valoriser en Picardie, qu'on a envie de promouvoir, et qui commence à avoir des répercussions localement à droite à gauche, ça n'est pas parti de nous forcément, mais c'est sûr que Il y a des modèles qui existent de militantisme qu'il faut reproduire, qu'il faut diversifier et pas simplement reproduire ce qu'on a oublié pendant 50, peut-être 40 ans. Simplement parler à la télé, c'est pas suffisant, mais aller voir les gens, c'est essentiel. Et des victoires tous les jours en allant voir les gens, on en entend, on les écoute, on les médiatise peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, c'est des journées comme aujourd'hui qui nous permettent de le faire. Et voilà, c'est ces victoires-là que je voulais mettre en avant. Merci les militants de Picardie Debout pour votre investissement au quotidien.
Alors moi, je vais vous parler d'une petite victoire. Vous savez, quand vous habitez à 25-30 km au sud de Toulouse, quand il y a des manifs, où il y a eu le combat sur les retraites qui a monopolisé pendant 6 mois, ce combat n'est pas fini. Mais quand vous habitez à 30 km de Toulouse, les manifs, en général, elles se passent à Toulouse. Toulouse, la métropole, elle aspire tout. Elle aspire l'activité, mais elle aspire même l'activité militante et des manifestations. Eh bien, c'est une victoire collective, parce qu'avec l'UL, l'Union locale de la CGT, avec les Gilets jaunes de Muret, on a réussi, chacun avec les militants, à instaurer des manifestations à Muret, sous-préfecture. Vous savez, la France est sous-préfecture. Alors ça paraît peut-être une petite victoire, mais c'était important. Ça a permis aux gens qui n'allaient plus en manifestation à Toulouse, parce qu'on fait tout pour décourager d'aller dans les grandes manifestations, parce que forcément, les forces de l'ordre font tout pour dissuader avec la violence. Non seulement on a réussi à faire un rituel de manifestation à Muret, avec la CGT, avec la FSU, avec les Gilets jaunes. Ça, c'est important, l'alliance Gilets rouges, Gilets jaunes, ça s'est pas passé partout. Moi, je trouvais même que c'était historique. Mais il y a eu aussi une petite victoire historique. À Muret, sous-préfecture de la Haute-Garonne, jamais, jamais, il y avait eu un défilé pour le 1er mai. Eh bien, en 2023, le 1er mai 2023, il y a eu le 1er mai, le premier défilé de toute l'histoire de Muret, à Muret. Donc ça, voilà, c'est quand les gens se mobilisent, on se mobilise au plus près, et ça c'était une belle satisfaction, mais commune à tous les militants, commune à la CGT, commune aux syndicats, commune aux Gilets rouges et commune aux Gilets jaunes. Et donc ça c'est une certaine fierté parce qu'on y a mis du cœur, et c'est vers ça qu'il faut aller, ça donnait un regard différent sur cette France qu'on ne sait pas qualifier. On dit la France des ruralités, la France en métropole, il y en a qui disent la France des sous-préfectures. Ben voilà, moi je vous invite à trouver un qualificatif s'il existe, de cette France qui envie d'être la reconnaissance. Quand je rencontre les gens, la première chose à faire, c'est avant tout écouter. Quand vous faites du porte-à-porte, écoutez. Quand vous allez sur les marchés, écoutez. Les gens, ils ont envie de parler. Le porte-à-porte, les gens, ils ne ferment pas la porte. Au contraire, ils vous ouvrent, ils vous invitent même à manger. Et on discute, on discute. Ça va partir de tous les côtés. Mais c'est déjà... Et après, ils vont vous remercier. Même si vous n'avez pas dit un mot, ils vont vous remercier d'avoir déjà écouté. On n'écoute plus les gens dans ce pays. Tout marche par écran internet, sur Twitter et tout. Il y a un mépris complet au plus haut sommet de l'État. Et les gens, avant tout, c'est écouter et après se mettre en action.
On va se faire une petite pause musicale et ça va nous permettre de mettre en place votre participation à cette émission. Il y a Kevin qui va passer parmi vous. Si vous avez une question à poser, vous levez la main. Il va vous donner un ticket, on mettra ça dans un chapeau, on tirera au sort. Voilà, on va un petit peu agiter tout ça, on va agiter le bocal. On fait une acclamation à Thierry qui assure la technique dans des conditions qui, au départ, n'étaient pas faciles. Bravo Palach, merci à nos invités qui ont été très clairs. Donc, une petite pause musicale, on vous met ça dans le bocal. N'hésitez pas à lever la main pour poser une question, vous aurez un ticket si vous avez envie de vous exprimer. Et puis, on verra comment ça se passe. On est bon, Palach ?
Amis paysans, tu te sens seul dans ton trou délaissé. Invente-toi une vie de citadin. La tapisserie murale YouTubercule, susnommée Panorama Urbain, te fait plonger dans l'univers miracle envoûtant de la ville. Qualité des transports, pollution, rats crevés, embouteillage et boulot de merde te seront offerts pour 12,99€. 12,99€. Prochainement, une nouvelle création, dîner en ville, déconstruction, mondialisation, discussion, immigration. Choisis ton TAM. Avec le gant, ma vache est pleine. Deviens la star des soirées mondaines. De multiples coloris au choix, livraison discrète assurée. Avec le spray Beaubouzeux, toi aussi, ami citadin, profite enfin de la campagne comme une vraie autochtone. Boubouzeux, c'est un grand choix d'arômes naturels. Colza, Roundup, épandage et sel. pour l'achat de deux sprays gagne une magnifique trousse de toilette, pochette, en panse de chevreau retournée. Spray boubouzeux et le bobo est joyeux.
Les derniers jours de l'humanité.
Eh bien, on va repartir, nos invités sont presque tous là. Bah, Guillaume, je pense qu'il a dû être sollicité, mais il va refaire. Ah, elle est là, super. Donc, c'est une, quand même une très grande réussite parce qu'on a eu une question. Alors, la personne qui a le numéro 1, c'est qui ?
Bonjour, numéro 1.
Mon frère Isabelle, une question et vous dire ce que nous on fait, parce que vous étiez dans des belles choses. Alors nous, ce qu'on fait depuis des mois, le premier mardi du mois, de 2h à 16h, on est devant la CAF. Parce qu'il y a des gros problèmes dans nos services publics. La CAF est un service public. Il y a 33 millions de familles qui ont besoin de la CAF. Et on est très mal accueillis, il n'y a que des ordinateurs, il n'y a plus de personnes et il n'y a surtout plus d'allocations pour tous les gens. Donc j'aimerais maintenant vous dire que nous on est fatigués, on aimerait retourner au Pôle emploi parce que c'est notre corps de métier et on aimerait que vous repreniez le flambeau de toute la France. Nous n'avons rien cassé, nous n'avons tapé personne, nous avons juste donné conscience aux gens que la CAF est un établissement public. Merci à vous.
Bravo!
On va faire réagir nos invités. Si dans l'intervalle, ils revenaient l'idée d'une question, vous levez la main et Kevin vous saute dessus.
Moi, je veux bien réagir, mais bravo déjà pour cette initiative. Maintenant, il ne faut pas que les associations remplacent les services publics. Voilà. Donc, il faut réussir à un moment à pallier l'absence de services publics, mais à ne pas faire à la place. Parce qu'aujourd'hui, il y a un service qui... C'est mis en place dans les années 80 qui s'appelle les Restos du Cœur, qui a remplacé la charité en quelque sorte et qui aujourd'hui est en grande difficulté et pour lequel l'État est bien content de trouver des bénévoles pour faire le travail qu'ils sont plus en capacité de faire. Et aujourd'hui, il faut réussir à marier les deux. D'un côté, le bénévolat et l'action militante qui permet de faire prendre conscience et en même temps le militantisme pour intervenir dans les instances, comme on dit, ad hoc, appropriées, pour qu'on réembauche des gens dans le service public, des fonctionnaires, pour qu'il y ait des interlocuteurs formés et pas des contrats civiques qui viennent remplir toutes les missions de France Service. Donc, d'un côté, supprimer tous les services publics pour après les reconcentrer dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune formation spécifique pour accueillir le public. Je pense que les bénévoles qui étaient devant la CAF avaient beaucoup plus de compétences que le jeune, malgré tout, qui était employé dans la maison France Service. Mais vous voyez, cette double dynamique de faire quand il y a un manque, mais pas oublier qu'il faut militer et continuer de peser pour... on a pointé du doigt le manque et il doit être comblé par un service de l'État.
Moi, je voudrais juste rendre hommage à Isabelle, là, qui est en train de partir. Donc, je vous la présente, Isabelle, parce que je l'ai rencontrée tout à l'heure. Et son visage me disait quelque chose. Il y a à peu près une dizaine d'années, elle s'est retrouvée sur un plateau télé de France 2. Ça s'appelait Des paroles et des actes. Elle s'est retrouvée face à Jean-François Copé. Elle en avait mis une sacrée. Et je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. Voilà, elle s'appelle Isabelle Morer. Elle vient de Mulhouse. Et moi, je vous propose qu'on l'applaudisse très, très fort.
Et depuis, Jean-François Copé a quasiment disparu, j'ai l'impression. Hein.
Donc, on a une deuxième question, là. Donc, on va accueillir...
Donc, bonjour, Jérémy. Je suis militant dans le Puy-de-Dôme pour le PS. Et j'ai une question à propos des transports, parce qu'on en parlait tout à l'heure pour la question de Montpellier notamment, sur la métropole, et pourquoi la métropole ne mettrait pas des transports pour au-delà de son territoire. Et on a un petit souci, c'est que la métropole, elle défend ses intérêts. Et donc elle fait avec son budget aussi, et si elle met la gratuité pour tout le monde, ça coûte déjà énormément de sous à la métropole. Et comment on fait pour aller genre au-delà? Et je pense que c'est une question qui s'intéresse non seulement au département, pour créer de la lisibilité, parce qu'aujourd'hui on a un problème, c'est qu'on dit aux gens dans la ruralité, plus de voitures, faut prendre les vélos, faut prendre des bus, des transports, des trains, sauf qu'on n'a plus de lignes, de petites lignes ferroviaires, ou des dessertes pourries avec des horaires qui correspondent à personne, avec des temps qui sont rallongés si les lignes sont en mauvais état. Et donc comment on fait pour créer une lisibilité entre le transport de la ville, le transport du département et le transport de la région? Donc j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de changer de mode de transport et comment les accompagner là-dedans, sachant qu'il y a autant de superposition de réseaux différents où il y a une lisibilité qui est pourrie, alors que par exemple dans le territoire de Belfort, je peux imaginer ça, il y a une cohérence et un seul établissement commun au niveau de la ville, département, qui rend la chose beaucoup plus simple. Voilà.
Merci pour la question. C'est hyper intéressant comme question pour le coup, parce que c'est un sujet complexe. Il y a plusieurs, dans ce que tu dis, il y a plusieurs points. Déjà, comment on rend cohérent? Alors ça devrait aider d'avoir métropole, département, région qui sont du même parti. Voilà, bon, après, bon, pardon, mais quand même. Et après, il faut une volonté politique forte. Et en réalité, la difficulté qu'on a, c'est que je ne suis pas sûre, en fait, que chez nous, ce soit identifié comme un objectif politique majeur, alors que ça devrait l'être. Et par exemple, quand j'interpelle le maire de Montpellier, le président de la métropole, pour lui dire bah, comment on fait pour financer le tram-train qui pourrait dépasser la métropole. Ok, c'est peut-être pas à la métropole, à la ville de payer, à la métropole d'ailleurs, mais au moins jusqu'aux bordures de la métropole, rien que ça. Au moins faire des parkings gratuits pour que les gens qui viennent en voiture puissent se garer facilement sans payer 20 euros par jour ou quelque chose comme ça, et que ce soit efficace. Et la réponse, c'est ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher parce qu'aussi on décide de faire une politique des transports gratuits, là on pourrait faire une politique de tarification sociale. Parce qu'en réalité, 1,10 euro pour quelqu'un qui travaille, voire qu'il y a une entreprise qui lui paye 50% du prix de son billet, ça reste rédhibitoire. Alors que pour les pouvoirs publics, c'est un coût très fort qui limite beaucoup l'action publique. Et aujourd'hui, on a un ordre de coût qui est de 1 million du kilomètre de tram. Mais on décide d'investir, par exemple, dans un nouveau stade, 8 millions d'euros, et ça, c'est pas un problème. Donc en vrai, il y a une question de financement, volonté politique forte, parce que oui, c'est un gouffre, mais ça veut dire qu'il faut mettre tous les efforts, concentrer tous les efforts sur cette priorité-là.
Un petit mot sur les transports. Il fut un temps, en France, on a appliqué ce qu'on appelait l'aménagement du territoire. Au niveau national, les voies ferrées étaient bien plus nombreuses qu'elles existent actuellement. La France investit moins que la Suisse dans ses voies ferrées. Mais quand on parle de transport, moi je sais que 75% des gens qui habitent ma circonscription utilisent la voiture pour aller travailler. Donc le transport, ça touche surtout les transports du quotidien. Et donc il faudrait peut-être penser pour relocaliser l'activité au plus près où habitent les gens. Les gens ont quitté les villes parce qu'il y a une histoire de prix de loyer et habitent de plus en plus loin de leur activité professionnelle ou même de leur activité de loisir. Et donc, on porte souvent, nous, à la France Insoumise, un petit triangle rouge qui rappelle les luttes ouvrières, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Eh bien, en 2000 actuellement, entre ces 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos, les distances sont devenues énormes. Il y a 50 ans, je veux dire, entre où les gens, où ils travaillaient, où ils se reposaient, où ils se distrayaient, on dit comme ça, ben les espaces étaient beaucoup plus petits. On pouvait y aller en vélo, on pouvait y aller à pied, les gens travaillaient, ben vivaient plus au niveau local. Et ben moi, je pense qu'il faudrait réduire ces distances-là, sans les interdire, pour justement, on pourrait parler de transport, mais transport, on pourrait les faire en voie, en vélo ou à pied. Parce que c'est trop facile de dire aux gens qui habitent à 30, 40, 50 km de leur travail, ben utilisez un autre moyen de transport que la bagnole parce que vous polluez. Ben non, il faut soit offrir des trains, c'est offrir des autres moyens de transport doux. Mais surtout pas, il y a toujours le piège. Moi, je vois partout, on est en train de construire des aires de covoiturage. Tout le monde me dit, c'est génial, on va mettre sa voiture, on va partager. Ça, quand on fait ça, on supprime des lignes de chemin de fer, on supprime des arrêts de bus, parce qu'on est en train de privatiser les transports en commun par le covoiturage ou style blablacar. À titre individuel, on va y trouver quelque chose, mais à titre collectif, on est en train de démanteler tous les services publics de transport. Mais c'est un vaste sujet. Merci pour ta question.
Un mot par rapport au transport, justement. On voit aujourd'hui la différence entre ce que propose Macron et ce que nous, on voudrait. C'est-à-dire son espèce de RER urbain qui va doubler la fréquence des trains aux alentours de 15-20 km autour des métropoles et qui va encore concentrer autour des métropoles l'activité. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est justement pouvoir naviguer entre sous-préfectures sans avoir à repasser par la métropole et même dans l'Hérault et toutes les parties côtières de bord de la Côte d'Azur. On n'a même plus ces lignes de voies ferrées qui vont de l'arrière-pays jusqu'à la côte. Il ne reste plus que la ligne de côte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet global qui n'est pas du tout l'idée des gouvernants et des libéraux qui, eux, saucissonnent la SNCF, la vendent au marché, l'ouvrent à la concurrence et qui, plutôt que de donner lisibilité de transport sur un territoire avec plusieurs collectivités qui se mettraient autour de la table en ayant les responsabilités des transports, ils vont faire intervenir encore davantage d'interlocuteurs autour de la table parce que Quand on ira autour d'Amiens, ça sera telle filiale de la SNCF qui sera là. Quand on va aller autour de Lille, ça sera tel autre groupement ferroviaire qui aura gagné les lots pendant 10 ans. Et du coup, on n'aura plus de cohérence sur le territoire. Par exemple, je parlais Hauts-de-France pour ce que je connais, sur le réseau ferré. Donc on vient ajouter la superposition de millefeuilles alors qu'on devrait, à l'intérieur de ce qui existe déjà, venir intégrer les bus, venir intégrer le transport doux à vélo avec la connexion avec des véloroutes qu'on a déjà sur le territoire mais qui sont gérées par le département, alors que le TER c'est la région, et à travers ça on a le TGV qui passe et ça c'est l'État. Et on n'est pas capable aujourd'hui de mettre les services de l'État, qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux, autour d'une table, et c'est pas en ouvrant la concurrence et au marché privé qu'on va gagner en lisibilité. Aujourd'hui, je pense que le projet qu'on doit porter, nous, chez nous, à gauche, c'est de redonner de la cohérence sur le transport du territoire, que ça soit au niveau de la mobilité douce, de la mobilité à voiture, parce qu'il faut pas l'oublier, elle existe. Et si on la, met de côté, c'est toute une partie de la population qu'on met de côté qui a besoin de prendre sa voiture et qu'on doit réorienter vers le, train, vers les transports en commun. C'était l'objet d'une proposition de loi qui a été déposée par la gauche sur le train illimité pour un certain tarif par mois, qui pourrait intégrer une dimension sociale où ça ne serait pas aberrant que si mon employeur prend une partie de mon abonnement, et ben ça soit deux fois plus cher que si je le prends à titre individuel. Ça pourrait être possible, et ce qui permettrait de ne pas limiter les rentrées d'argent qui sont nécessaires malgré tout pour les investissements. Il faut faire attention à la gratuité et la capacité des collectivités et de l'État à pouvoir malgré tout investir, parce que c'est d'un grand plan d'investissement qu'on a besoin pour diversifier les réseaux de transport.
Très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses qui ont été dites. Rappelez quand même qu'il y a 30 ans, les trajets domicile-travail moyen, pour chiffrer ce que vient de dire Christophe, c'était 6 km, le trajet domicile-travail moyen. Aujourd'hui, dans ma circonscription, c'est 60 km. Donc vous voyez l'immense étalement urbain qui a eu lieu, l'éloignement des lieux de travail de là où les gens habitent. Pour compléter ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'il y a un acteur qui manque à tout ce qu'on vient de dire, qui s'appelle l'État. Clairement. Et nous, la gauche, notamment le Parti Socialiste, on est censé être très décentralisateur. Mais à force de décentraliser et de privatiser, finalement, il n'y a plus de logique d'ensemble et il n'y a plus d'État. Et moi, je ne vois pas la plus-value à ce qu'on ait décentralisé, par exemple, les TER. Et moi, je pense que si c'était fait par la SNCF, on s'en sortirait mieux que cette espèce de concurrence factice où maintenant les régions vont pouvoir choisir entre différents opérateurs pour opérer leur ligne de TER. Je crois qu'il faut retrouver une grande ambition nationale. Voilà. Et ce n'est pas d'être de droite de dire ça. Les centralisations, c'est la démocratie de proximité, c'est la démocratie du quotidien. Mais on doit garder un État qui est capable d'assumer ces grandes transitions écologiques, ces grandes planifications qu'on veut opérer. Et pour ça, il faut nous réarmer.
Tout à fait. Alors nous, il n'y a rien. Il n'y a pas de TER, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc ce qui est grave depuis un certain temps, c'est l'augmentation du prix de l'essence. Non seulement ça, mais il y a les radars embarqués, je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'ai été une des seules maires, il y en a une dizaine, à prendre un arrêté pour interdire les radars embarqués dans ma commune, sur le territoire. C'était un gadget, mais je pensais que tous les maires environnant me soutiendrait et ferait la même chose. On serait 200 maires à faire ça, ça aurait du poids. Donc en fait, je suis passée au tribunal, enfin, etc., etc. Mais ça veut dire que les gens sont pénalisés par ça, parce que pour aller quelque part chez nous, il y a 15 km, ça veut dire qu'ils se font arrêter. Moi, j'ai mon employé municipal en un mois, il s'est fait arrêter 9 fois. Parce qu'il a fait 85 au lieu de faire 80. Donc, que des imbécilités comme ça qui montrent encore que c'est privatisé. On redonne et c'est tout le temps, on paie, on est puni. Tout le temps, on est puni. Quant au contrôle technique aussi, il a augmenté. Donc, on a des voitures qui ne sont pas forcément neuves. Et le contrôle technique, ça coûte extrêmement cher.
Je vous ai indiqué tout à l'heure que j'habitais dans le Var. Ils ont mis dans le Var un système qui s'appelle Var Libre. Ce sont des bus. Alors ça vous permet d'aller de Fayence, à côté d'où j'habite, à Toulon, donc à peu près 120 km pour 1 euro. Mais il faut prévoir 3 jours.
petite pause pub.
Jingle pub, jingle pub, jingle, jingle pub.
Marre de faire 2 heures de route pour trouver les urgences fermées? Avec les tutos YouTubercule, toi aussi deviens chirurgien. En 5 vidéos, apprends à prélever un rein, à fabriquer tes propres anxiolytiques. Coup pour ongle offert. Avec les tutos YouTubercule, les déserts médicaux reculent. Les éditions Fakir présentent le Picard en 10 leçons pour s'intégrer en Picardie et profiter pleinement de chouettes. Pour 6 euros seulement, rapproche-toi de la ruralité qui gagne. Le Picard en 10 leçons existe aussi en braille et en langue des signes.
Les derniers jours de l'humanité.
On va prendre la troisième question. Vas-y, tu as donc tes cadeaux. Le Fakir, je vous rappelle qu'ils ont une super bière à la buvette derrière. Et ça vous permet d'être en relation avec Fakir et Picardie debout. Vas-y.
Enchanté, merci beaucoup pour le débat. Lucas, moi je viens en région parisienne. En fait, je vous ai entendu beaucoup parler de retour des services publics, de réaction face à la disparition. Mais c'est quoi du coup le futur désirable des campagnes, de la des ruralités? C'est quoi qu'on vend vraiment? Enfin, c'est comment on retrouve, je sais pas, une fierté paysanne ou quelque chose de plus positif? Et comment du coup on se prépare à accueillir ceux qui fuient, mais de la ville, puisqu'on a beaucoup parlé avec la pandémie? Comment on arrive à garder ceux qui restent et faire en sorte qu'ils augmentent? Donc c'est quoi en fait le vrai plan, non pas de réaction face à ce qui se passe, mais de transformation de ce qu'est les ruralités.
Merci pour la question. Si j'ai bien compris, est-ce que vous envisagez de faire des centres de rétention pour bobos désespérés dans quelques années?
L'idée qu'on parle des ruralités, c'est pas de revenir à une ruralité un peu passéiste, celle que j'ai connue tant gamin, c'est-à-dire la ruralité de la réputation. Moi, j'ai vécu dans un village où les gens, ce qu'on appelait dans les petits villages, on était le fils d'eux ou la fille d'eux. Et donc, on devait se comporter en fonction d'eux parce qu'on était observé. Moi, mon père, il s'appelait Georges. Donc j'étais le fils du Jojo, parce que le surnom. Et donc ça me collait à la peau, et donc il était petit commerçant. Donc voilà, je suis pas nostalgique de cette ruralité-là. Par contre, quand on dit que la ruralité, tout est possible, c'est une ruralité pétillante, c'est une ruralité ouverte, qui accueille, qui n'est pas discriminante, qui a toutes les bonnes idées. Je veux dire, quand on parle de tiers-lieux, quand on parle d'artistes, c'est ce qui se passe actuellement. Damasio, qui travaille beaucoup là-dessus, justement, ouvre ses territoires de tous les possibles. Alors, comment on idéalise ça? Moi, ce que j'aimerais, dans tous les villages de France, toutes les communes de France, c'est qu'il y ait un endroit, un tiers-lieu, mais ça devrait être aidé par l'État, où les gens se retrouvent. Ils viennent faire 2-3 courses, ils viennent prendre un renseignement, ils viennent tout simplement boire un coup. Moi, à côté de chez moi, il y a un petit village, ils ont ouvert une épicerie. Ben, qu'est-ce qu'a fait l'épicerie? Elle a mis 2 tables dehors avec des chaises et les gens, ils viennent boire un coup. Ils discutent, ils prennent le journal. Et c'est ça, déjà créer ça. Moi, je suis nostalgique aussi des bistrots de mon enfance. Les bistrots, c'était un peu la salle à manger de ceux qui n'en avaient pas. Donc les vieux jouaient à la belote, les gamins jouaient au baby-foot, je faisais partie de ces gamins-là. Et puis bien souvent, les gens venaient boire l'apéro après la messe. C'était ça. Alors, il ne faut pas idéaliser non plus, hein. Ça picolait à mort. Mais recréer cet espace de dialogue qui existait, et non pas que les gens restent chez eux. Les gens ont envie, comme je disais, les gens ont envie de discuter, les gens ont envie d'être écoutés. Donc moi, l'idée, j'aurais envie de porter ça, qu'on crée partout, dans toutes les communes de France, un tiers-lieu. Alors, à imaginer, hein, mais justement, travailler avec les gens de la commune, avec toute cette jeunesse qui arrive, et puis que cette jeunesse s'intègre. Alors, comme je vous disais, je viens de la Meuse, dans une petite bourgade qui s'appelle Trévray. Il y a des jeunes qui militent à Bure, qui ont ouvert un petit café qui s'appelle Les Trois Vallées. Eh bien, ils ont eu l'idée, l'intelligence, de garder l'esprit café, mais de faire des soirées karaoké, de faire des soirées spectacles. Ils amènent leur originalité tout en gardant l'esprit café. Eh bien, c'est vers ça qu'il faut se diriger, et donc ça marche. Voilà, c'est mon plan, il n'est pas énorme, mais c'est au moins créer un endroit, un carrefour de tous les possibles.
Moi, j'aurais envie d'inverser ta question, en fait. C'est-à-dire que, alors, un peu comme Christophe, je suis née au nord de l'Hérault, dans les Cévennes, dans un village de 180 habitants. J'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Je suis allée dans un lycée très rural. J'ai fait partie de ceux qui partent. Et il y avait ceux qui restaient. Et ceux qui sont restés, d'ailleurs, ils n'allaient pas à la ville. Parce que la ville, c'était loin. La ville, c'était comme faire un voyage. Et j'ai vraiment des amis pour qui aller à la ville qui a 50 bornes, c'est faire un voyage. Donc ils le font pas. Et en fait, moi, là d'où je viens, les gens, ils sont fiers. Moi, je suis fière d'être Cévenole. Ça fait 20 ans que je suis partie, mais En fait, c'est pas pour rien que je travaille aujourd'hui sur la question de la ruralité, que je suis co-animatrice du, l'équivalent du livret chez nous des ruralités à Europe Écologie Les Verts. Parce que, en vrai, moi, je suis fière de cette identité-là, et les gens que je connais, ils sont fiers de là où ils habitent. Et il n'y a pas que les Cévennes, il n'y a pas que l'Ariège, il n'y a pas que la Drôme. Je ne connais pas un endroit en France où les gens, ils sont pas fiers de là où ils habitent, en fait. Et du coup, pour moi, c'est une vision d'urbain, de penser que les gens qui habitent à la campagne, eh ben, en fait, il y a besoin de réinventer quelque chose. Non, pour moi, non, en fait, il y a besoin d'arrêter d'avoir du mépris des gens des campagnes. Et je dis pas que t'en as, hein. Mais par exemple, on en sent beaucoup, moi j'en ressens énormément du gouvernement. Beaucoup de mépris en termes général d'ailleurs, dans toute sa manière de parler, mais énormément de mépris des gens en fait qui ne connaissent pas les ruralités, qui ne connaissent pas les espaces de campagne, et qui en fait se rendent pas compte que ça peut être super aussi de vivre là-bas. Et d'ailleurs, ruralité, ça veut dire qu'il n'est pas urbain. Enfin, on pourrait quand même s'interroger sur ça. Voilà, donc pour moi, le plan de transformation, il va aussi, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de services, c'est que ce qui fait que moi j'y habite pas, c'est aussi que le travail il est en ville, c'est aussi que j'ai pas envie de prendre la voiture pour faire 50 km tous les matins, etc. Et donc la question des services, de l'accès au travail, de l'accès aux soins, de l'accès à l'école, de l'accès aux activités, elle est fondamentale. Et c'est ça qui permet aussi de réduire peut-être un impact carbone si on pense au transport, parce que la ruralité sans voiture c'est compliqué. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir un avenir un peu meilleur.
Non, alors, moi je pense effectivement, tu l'as bien dit, les gens ils sont contents d'être là et ils vivent leur truc, c'est pas ça. Après, ouais, ils souffrent et je pense qu'il y a des problèmes qu'on doit résoudre. Après, il y a une deuxième question qui est intéressante, c'est comment tu réinventes les ruralités de demain, et la question de la démétropolisation, parce que moi je suis favorable à la démétropolisation, parce qu'on est en train de créer des zones de congestion immenses et des zones de reproduction d'inégalités, et je pense qu'il faut décongestionner nos pays et repeupler nos campagnes. On a un problème majeur aujourd'hui dans nos campagnes. C'est qu'on a que des propriétaires. On a très très peu de locataires car il n'y a pas de logements sociaux ou très peu dans les campagnes. Et les logements sociaux qu'on a dans nos villages, souvent, vous savez, c'est l'école qu'on a fermée et on a fait un logement dans l'ancien logement de l'Institut et puis un autre dans la salle de classe. C'est les seuls logements locatifs. Et donc du coup, on a un vrai problème de vieillissement. C'est que comme les gens sont propriétaires, bah, ils font construire. Ensuite, ils restent pendant des années. Et puis on a un faible taux de renouvellement et donc des fermetures de classes importantes. Et moi je suis favorable à ce que l'on crée une agence nationale de rénovation rurale, comme l'agence nationale de rénovation urbaine, qui aille construire des logements pour les familles en milieu rural. Des logements qui soient accessibles et qu'on fasse aussi, qu'on applique le fameux quota de la loi SRU des 20% aussi en milieu rural. Il y a une loi qui a été adoptée, vous connaissez, c'est le zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, on va plus pouvoir construire dans les villages parce qu'on a tellement étalé qu'il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'on fasse une exception pour construire ces logements locatifs. Et justement, on n'aura plus besoin de faire de lotissement parce qu'on aura une vraie rotation des personnes dans nos villages. Et je crois que c'est le vrai enjeu pour inventer nos ruralités de demain.
Alors moi, je dirais que quel que soit le territoire, on devra avoir toujours les mêmes moyens. Donc à la campagne, dans les petits villages, on n'a pas les moyens qu'on a dans un bourg de 2000 habitants. Deuxièmement, je viens d'acheter 3 hectares en plein centre du village et réellement, je n'ai pas le droit de construire. La SAFER s'est emparée du terrain. Donc même faire des logements sociaux, on est prêt, mais on n'a pas le droit, on ne peut rien faire. Donc, il faut quand même bien être persuadé qu'actuellement, tout est fait pour que dans les campagnes, on ne puisse plus rien faire. C'est en vue de nous supprimer, d'accord? Donc, d'après ce qui était dit, on vient d'ouvrir un bar, nous, avec une épicerie et plein de services. Et on a énormément de gens qui viennent prendre un café, prendre une bière en disant « c'est génial ». On peut s'arrêter, on peut parler. Et en fait, se mélangent les résidences secondaires, ce qui n'existait pas avant. Les gens qui viennent en résidence secondaire, c'est comme ça que j'ai trouvé une gynécologue qui veut bien ouvrir chez moi de temps en temps. Donc en fait, voilà. Mais j'ai réussi à faire tout ça parce que j'ai un adjoint qui fait tout. Qui le lundi travaille, son jour de congé il fait le placo, moi je peins, je ponce les escaliers, mes conseillers travaillent. Si on ne faisait pas nous-mêmes tout, c'est impossible. Donc, il n'y a que comme ça qu'on résiste. On vient d'acheter une maison en pleine forêt pour faire une maison forestière, un gîte. On a tout, tout fait nous-mêmes.
Ah, franchement, bravo.
Rapidement sur comment on fait revenir les gens, comment on fait rester. Qu'est-ce qui a fait aller partir les gens vers les métropoles? C'est pratique, il y avait plein de trucs, etc. En fait, ils y ont trouvé ce dont ils avaient besoin. Si on a ce dont on a besoin dans son village ou dans sa petite ville, il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Donc si on se pose cette question quand on est une intercommunalité, quand on est une communalité, de quoi les gens ont besoin? Est-ce qu'il y a besoin d'une école? Est-ce qu'il y a besoin d'un bureau de poste? Est-ce qu'il y a besoin d'une bibliothèque? Est-ce qu'il y a besoin d'un stade de foot? Est-ce qu'il y a besoin d'une gare? Et qu'on arrive au niveau de la commune, on arrive au niveau de l'intercommunalité à répondre aux besoins des gens, forcément ils n'ont aucune envie d'en partir. Et surtout, ils en sont fiers, comme tu as pu le dire, et ils en font la promotion. Moi, aujourd'hui, j'habite dans une ville de 3000 habitants. Pourquoi je m'y suis installé? Parce que les terrains n'étaient pas trop chers, il y avait de la place, et c'est ce que les urbains recherchent après le Covid, c'est d'avoir un petit bout de terrain, parce que c'était compliqué d'être enfermé pendant 2 mois. Donc il faut qu'il continue d'y avoir des petits bouts de terrain possibles quand on fait bâtir à la campagne ou quand on vient en location à la campagne. 2, il y avait une gare dans la ville où je me suis installé. 3, il y a des médecins. 4, il y a un contrôle technique. 5, il y a une pharmacie. 6, il y a 2 écoles. 7, il y a un collège. C'est-à-dire que j'avais réussi à les besoins de ma famille. Je m'installe, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans. Je quitte une ville d'une dizaine, 10-15 000 habitants dans l'Aisne. Je m'installe dans la Somme et j'y retrouve, à l'échelle divisée par 3 en nombre d'habitants, tous les besoins d'une famille jusqu'aux 15 ans de mes enfants. Aujourd'hui, mon gamin part au lycée, il y a le train, en 25 minutes, il est au lycée. En fait, j'ai tous les besoins sur place. Je n'ai aucun intérêt à aller payer une maison qui est 2 fois plus chère en ville, alors que j'ai tout le plaisir de la campagne, comme on dit, et de la ruralité, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, devant chez moi, c'est les champs à perte de vue, les éoliennes, et j'ai un petit bout de terrain qui me permet de manger en terrasse le soir quand il fait un joli temps comme aujourd'hui. On a un objectif, c'est qu'on veut gagner et qu'on veut gouverner. Et donc si aujourd'hui, on ne s'adresse pas à un gros tiers des électeurs qui vivent dans la ruralité, dans les campagnes, dans les périphéries, etc. Si on ne leur parle pas, et si, par bonheur, on arrive quand même à gagner des élections, eh ben on va avoir, avant ces élections, créé le clivage qui fait que chaque mesure qu'on mettra en œuvre, ben la campagne elle sera contre, parce qu'on ne leur aura pas parlé avant la campagne. Et si on veut embarquer tout le monde, avoir un programme qui soit en capacité d'être envié et de donner envie aux gens, c'est un programme qui inclut ce dont on a été capable de faire à la présidentielle précédente, en accumulant, etc., le vote dans l'outre-mer, le vote dans les quartiers populaires, le vote urbain des gens avec la culture, un niveau de culture assez élevé. Par contre, on a oublié toute une partie de la France qui, comme chez moi, vote à 60% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. J'ai bien dit au premier tour de la présidentielle, pas au deuxième, au premier tour. Et que aujourd'hui, il n'y a pas de candidat ou de projet de gauche qui donne envie à ces gens-là de venir vers nous. Donc, puisque on a envie que nos idées adviennent et puissent être en mesure de gouverner, il faut que dans les 4 prochaines années, on soit en capacité de répondre à toutes les questions que les ruraux, les périphériques ou les arrière-pays se posent et qu'on les inclut dans un projet qui vienne s'additionner avec les réponses que on a déjà été en capacité de donner aux gens qui nous ont fait confiance sur les élections précédentes. Et pas ajouter un clivage supplémentaire, ce clivage géographique, il faut absolument qu'on le résolve.
Bravo. Ben, merci à nos 5 invités. Les conditions n'étaient pas faciles, mais vous avez bien partagé le micro, c'est super. Merci à vous, ça va continuer demain matin avec François Ruffin et quelques invités. Ça va continuer demain après-midi, ça va être le boozing demain après-midi. Il va y en avoir de partout. Ça va partir dans tous les sens, on va bien se marrer. Là, on était un petit peu pris de court, donc on a pu s'occuper bien de nos invités avant qu'ils arrivent parce qu'on attendait la sono. Mais jingle, on se retrouve demain. Pensez à la
les éditions Fakir, Picardie de Beau et YouTubercule présente
en collaboration avec Carl Krause
les derniers jours de l'humanité.
Les derniers jours de l'humanité.
Tubercule, vous n'y échapperez pas.